Chapitre 16. Mer polaire australe. En fin de compte, les quatre voyageurs décidèrent de manger. Sa vie disparut quelques minutes dans l'un des tunnels éclairés, revenant avec des plats chauds, du poulet rôti, du riz au curry et de l'agneau grillé. Quelques heures plus tôt, à Oulan-Bat, les quatre avaient à peine touché à leur encas, mais ils attaquèrent ce repas avec enthousiasme.
Si vous vous sentez fatigué, vous pouvez dormir ici cette nuit avant votre départ, proposa Savi. Il y a des couches confortables dans certaines des pièces voisines.
Aucun des quatre n'avait sommeil. On n'était qu'en fin d'après-midi, heure de Paris-Cratère. Daeman parcourut les yeux du regard, avala une partie de la tranche d'agneau qu'il mâchonnait et demanda
« Pourquoi vis-tu dans un...
» Il se tourna vers Arman.
« Comment as-tu dit ?»«
Un iceberg, »
souffla Arman. Daeman opina, se remit à mâcher et se retourna vers Savi.
« Pourquoi vis-tu dans un iceberg ?»
La femme sourit.
« Si j'ai élu domicile ici, c'est en partie... Eh bien, disons par nostalgie. »
Voyant qu'Arman la fixait avec attention, elle ajouta
« Je faisais retraite dans un iceberg comme celui-ci lorsque le dernier fax a eu lieu, sans que j'y participe. Il y a 14 de vos 5-20. »
« Je croyais que tout le monde avait été archivé lors du dernier fax, »
dit Ada en s'essuyant les doigts sur une superbe serviette de lin couleur crème.
« Tous les millions d'humains à l'ancienne. »
Savi secoua la tête.
« Pas des millions, ma chère. Loin de là. » Nous n'étions qu'un peu plus de 9000 lorsque les postes ont effectué leur dernier fax. Pour autant que je le sache, aucun de ces individus, dont beaucoup étaient mes amis, n'a été reconstitué après le hiatus. Nous tous qui avions survécu à la pandémie étions juifs, vous savez, et donc résistants au virus Rubicon.
Que sont les juifs?
Demanda Anna.
Ou plutôt, qu'étaient les juifs?
« En grande partie une construction raciale théorique, » répondit Savi. Un groupe génétique semi-distinct produit par une isolation culturelle et religieuse de plusieurs millénaires. »
Elle marqua une pause pour parcourir son auditoire du regard. Apparemment, seul Arman avait une vague idée de ce qu'elle racontait.
« Ça n'a pas grande importance, » reprit-elle à voix basse. « Mais c'est pour cela que tu as entendu parler de moi sous le sobriquet de Juive errante, Arman. Je suis devenu un mythe, une légende. L'expression « Juive errante » a survécu à la perte de sa signification. »
Elle eut un nouveau sourire, totalement sans humour cette fois-ci.
« Comment se fait-il que tu aies raté le dernier fax ?»
demanda Arman.
« Pourquoi les post-humains t'ont-ils abandonné ?»
Je l'ignore. Je me pose la question depuis des siècles. Peut-être ont-ils agi ainsi pour que je serve de témoin.
De témoin? Répéta Ada. Mais de quoi?
La terre et le ciel ont subi nombre de changements étranges durant les siècles qui ont précédé et suivi le dernier fax, ma chère. Peut-être que les postes ont jugé que quelqu'un, ne serait-ce qu'un humain à l'ancienne, devait être le témoin de ces changements.
« Nombre de changements ?» répéta Anna. « Je ne comprends pas bien. »«
Non, ma chère, mais tu ne le peux pas vraiment, n'est-ce pas ? Toi, tes parents et tes aïeux, vous n'avez connu qu'un monde qui ne semble jamais changer, hormis lorsqu'un individu en disparaît. Et encore, sa vie dure-t-elle un siècle plein ? Non, les changements dont je parle n'étaient certes pas tous visibles. » Mais la Terre d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'ont connue les humains à l'ancienne et les premiers postes.
« Quelle est la différence ?» demanda Daeman d'un ton qui affirmait clairement que la question n'avait pour lui aucun intérêt.
Savi braqua sur lui ses yeux bleu-gris. « Premièrement, et je sais que ce n'est pas grand-chose en comparaison de tout ce qui s'est passé, mais c'est néanmoins important pour moi. Il n'y a plus de Juifs. »
Elle leur indiqua l'emplacement des toilettes et leur suggéra d'ôter leur thermopot avant de repartir.
« Nous n'en aurons pas besoin, » s'enquit Daeman. « Nous nous gèlerons un peu le temps de rejoindre le Sony, » répondit Savi, « mais nous y survivrons. Et ensuite, elles vous seront inutiles. »
Ada alla ôter sa thermopompe et retourna dans la salle principale, où elle était occupée à méditer sur ses découvertes en contemplant les murs de glace, lorsque sa vie émergea d'une autre pièce. La vieille femme avait enfilé un pantalon plus épais que précédemment et des bottes plus hautes, une cape doublée et une casquette enfoncée sur son crâne et laissant passer une queue de cheval. Elle portait un sac à dos couleur kaki qui semblait assez lourd. Ada, qui n'avait jamais vu une femme se vêtir de telle manière, était fascinée par le style de sa vie. En fait, songea-t-elle, elle était fascinée par tout ce qui avait trait à sa vie. Arman, lui, semblait surtout fasciné par l'arme que la vieille femme gardait passée à sa ceinture.
« Tu envisages toujours de tirer sur l'un d'entre nous ?»
demanda-t-il.
« Non, » répondit Savi. « Du moins pas tout de suite. » « Mais peut-être aurais-je parfois besoin de tirer sur autre chose. »
Ils étaient frigorifiés lorsqu'ils arrivèrent près du Sony, à l'issue d'une longue marche dans les couloirs et sur la surface de l'iceberg, où le vent ne cessait de hurler, la neige de tomber, mais il faisait bien chaud à l'abri du champ de force de la machine. Savi s'installa sur la couchette, naguère occupée par Arman, et Ada, comme elle s'allongeait à sa droite, la vie qui faisait apparaître une console holographique en passant la main sous la poignée.
« D'où cela sort-il ? »
demanda Arman. Il s'était placé à gauche de la vieille femme. Il restait une couchette vide entre Daeman et Anna.
« Mieux valait pour vous que vous ne puissiez pas contrôler le Sony, » déclara Savi.
Elle s'assura que tout s'était bien en place, puis elle en serra la poignée. L'engin émit un bourdonnement sourd, s'éleva à la verticale, atteignant une altitude d'environ 200 mètres au-dessus de l'iceberg, partit dans un looping, le champ de force maintenait les passagers en place, mais ils eurent quand même l'impression qu'ils allaient tomber dans les eaux noires parsemées de glace bleue, promis à une mort certaine, se redressa, vira à gauche et prit son essor vers les étoiles. Lorsqu'il eut atteint une vitesse et une altitude également respectables, mettant le cap au nord-ouest, Arman demanda
« Est-ce que cet engin peut nous conduire là-haut ? »
Il leva la main gauche, ses doigts butant sur le champ de force.
« Où ça ?»
demanda Savi, concentrée sur l'écran holographique devant elle.
« Dans l'anneau P ?»
demanda-t-elle une fois qu'elle eut levé les yeux. Arman, quasiment allongé sur le dos, fixait l'anneau polaire qui s'étirait du nord au sud au-dessus d'eux. Vu leur altitude et la faible densité de l'atmosphère, ces dizaines de milliers d'éléments brillaient chacun d'un éclat qui leur était propre.
« Ouais, » dit-il.
Savi secoua la tête.
« C'est un Sony, pas un spationnef.
L'anneau P est haut.
Pourquoi souhaites-tu y aller ?»
Arman ne répondit pas à sa question.
« Sais-tu où nous pourrions trouver un spationnef ?»
La vieille femme sourit une nouvelle fois. À force de l'observer, Ada avait identifié plusieurs de ses expressions. Certains de ses sourires étaient chaleureux, d'autres non, et celui-ci pouvait être qualifié de glacial ou d'ironique.
« Peut-être, »
fit-elle d'un ton qui signifiait qu'elle n'en dirait pas plus.
« Tu as vraiment rencontré des postes humains ?»
lui demanda Anna.
« Oui !»
répondit Savi, élevant la voix pour couvrir le bruit du Sony qui mettait le cap au nord.
« J'en ai rencontré quelques-uns. À quoi ressemblait-il ? »
insista Anna d'une voix rêveuse.
« Premièrement, il n'y avait que des femmes parmi eux. »
Arman tika.
« Vraiment ? »
« Oui.
Certains d'entre nous pensaient que seuls de rares postes descendaient sur Terre, mais qu'ils prenaient des formes différentes, et toutes féminines. » Peut-être n'y avait-il pas de poste humain du sexe masculin. Peut-être avaient-ils renoncé à la différenciation sexuée dans le cadre de leur évolution. Qui sait ?
Est-ce qu'ils avaient des noms ? Demanda Daeman. Savi fit oui de la tête.
Celle que je connaissais le mieux, enfin, que je voyais le plus souvent, s'appelait Moira.
À quoi ressemblait-il ?
Répéta Anna.
Comment était leur personnalité ? Leur aspect ?
Ils préféraient flotter plutôt que marcher,
répondit Savi énigmatique.
Ils aimaient organiser des fêtes pour les humains à l'ancienne que nous étions. Ils aimaient bien s'exprimer par devinettes, à la façon de l'oracle de Delphes.
Durant une minute, on n'entendit plus que le vent qui soufflait sur la coque en polycarbone et sur la bulle du champ de force. Puis Ada demanda
« Est-ce qu'ils descendaient souvent de leurs anneaux ?»
Savi secoua la tête encore une fois.
« Non. Très rarement sur la fin, durant les années qui ont précédé le dernier fax. Mais le bruit courait qu'ils avaient construit des installations dans le bassin méditerranéen. »
« Le bassin méditerranéen ?» répéta Arman. Savi eut un sourire qu'Ada classa dans la catégorie « amusé ».
Plusieurs siècles avant le dernier fax, les postes ont vidé une mer de belle taille au sud de l'Europe. Ils ont érigé un barrage entre un rocher du nom de Gibraltar et la pointe de l'Afrique du Nord, et en ont interdit l'accès aux humains à l'ancienne. Une bonne partie des terres ainsi dégagées ont été transformées en terrains cultivables. Du moins, les postes l'affirmaient-ils. Mais j'ai réussi à examiner les lieux avant de me faire repérer et chasser, et j'ai découvert des... Eh bien, le terme de cité est sans doute celui qui convient le mieux pour décrire ce que j'ai vu. Si l'on accepte qu'un système en état solide puisse être une cité.
État solide ?
Répéta Anna.
Peu importe, mon enfant.
Arman s'était recouché sur le ventre, prenant appui sur ses coudes. Il secoua la tête.
Je n'ai jamais entendu parler de ce bassin méditerranéen. Ni de Gibraltar, ni de... Comment as-tu dit ? De l'Afrique du Nord ?
Je sais que tu as découvert quelques cartes, Arman, et que tu as appris à les lire, d'une certaine façon. Mais c'était des cartes médiocres et périmées. Les rares livres que les postes humains ont autorisés à survivre dans ce monde post-alphabétisé étaient... inoffensifs.
Arman plissa le front. Le vol se poursuivit en silence. Le Sony les fit sortir de la nuit polaire et entrer dans la lumière de l'après-midi. Et ils découvrirent qu'ils avaient quitté l'océan pour survoler la Terre, à une altitude qu'ils ne pouvaient déterminer et à une vitesse dont ils ne pouvaient que rêver. L'anneau P s'estompa à mesure que le ciel virait au bleu, et ce fut l'anneau E qui devint visible au nord. Ils traversèrent des terres occultées par de grands nuages blancs, puis aperçurent de hautes montagnes couronnées de neige et des vallées prises dans la glace. Une fois à l'est de cette chaîne, Savi fit perdre de l'altitude au Sony, et ils filèrent quelques milliers de mètres au-dessus de forêts tropicales et de savanes vertes, conservant une vitesse telle que de nouvelles montagnes se dressèrent devant eux quelques minutes après être apparues à l'horizon.
« Est-ce l'Amérique du Sud ?» demanda Arman.
« C'était, » répondit Savi.
« Que veux-tu dire ?»«
Les continents ont considérablement changé depuis l'époque où tes cartes ont été dessinées, » expliqua la vieille femme. « Et on leur a donné d'autres noms. Sur tes cartes, est-ce que cette masse terrestre était reliée à celle qu'on appelait l'Amérique du Nord ?»«
Oui. »
Elle ne l'est plus.
Savi effleura les symboles holographiques, tira sur la poignée, et le Sony perdit de l'altitude. Ada se dressa sur ses coudes, touchant le champ de force avec son crâne, et regarda tout autour d'elle. Dans un silence qui n'était brisé que par le souffle de l'air sur la bulle du champ de force, le Sony rasait les cimes des arbres, cicadales, fougères géantes et antiques arbres effeuillés. À l'ouest se dressaient les contreforts des lointaines montagnes. Loin à l'est, les prairies vallonnées étaient mouchetées de bosquets des mêmes arbres primitifs. Des animaux de grande taille couraient près des lacs et des rivières, pareils à de gros rochers doués de mouvement. D'autres paissaient paisiblement, affublés d'un groin improbable et d'une robe rayée de blanc, de marron, d'ocre et de rouge. Ada était incapable de les identifier. Soudain, un troupeau de ces herbivores passa en courant 30 mètres au-dessous du Sony, complètement pris de panique. Ils étaient pourchassés par une demi-douzaine de gigantesques oiseaux, des monstres mesurant 2,50 m de haut, avec une crinière de plumes ébouriffées entourant le bec le plus menaçant, la gueule la plus laide qu'Ada ait jamais vue. Les herbivores étaient rapides. Avant qu'ils disparaissent à la vue, Ada évalua leur vitesse à 60 km à l'heure. Mais les oiseaux l'étaient encore davantage, capables de pointe à 90, soit 4 fois la vitesse maximale d'un droski ou d'une carriole.
« Que ?»
commença Anna.
« Ce sont des oiseaux terreurs, » coupa Savi. « Des Forus racos. » Après le Rubicon, les arnistes ont disposé de quelques siècles pour faire joujou.
Le lieu était bien choisi pour cette bestiole, vu que les vrais oiseaux terreurs hantaient ces plaines il y a 2 millions d'années. Mais ce genre de recombinaison, comme vos dinosaures plus au nord, est nuisible à l'écologie. Les postes avaient promis de faire le ménage pendant le hiatus qui suivrait le dernier fax, mais ils n'en ont rien fait.
Qu'étaient les harnistes ?
Demanda Ada. Les animaux, les oiseaux terreurs comme leur proie, avaient disparu derrière eux. Ils apercevaient maintenant à l'ouest des troupeaux plus importants, composés d'herbivores plus grands, en butte à des prédateurs rappelant le tigre. Le Sony prit de l'altitude et obliqua en direction des collines. Sa vie poussa un soupir de lassitude.
Des artistes de l'ARN. Des francs-tireurs de la recombinaison génétique. Des rebelles et des farceurs équipés de séquenceurs et de cuves génétiques piratées.
Elle considéra Ada, puis Arman, puis Daeman et Anna.
N'y pensez plus, mes enfants,
conclut-elle. Ils survolèrent pendant un quart d'heure une forêt embrumée de chaleur, puis obliquèrent vers l'ouest à l'approche de la chaîne de montagnes. Les nuages contournaient les sommets au-dessous d'eux et la neige venait fouetter le Sony, mais le champ de force les maintenait à l'abri des éléments. Sa vie effleura une image lumineuse. Le Sony ralentit, décrivit un cercle et fonça droit sur le soleil de fin d'après-midi. Ils étaient très haut dans le ciel.
« Oh !» fit Arman.
Devant eux, deux pics élevés se dressaient de part et d'autre d'une étroite selle de cheval couverte de terrasses herbues et de ruines véritablement antiques, des murs de pierre à ciel ouvert. Un pont, datant lui aussi de l'ère perdue mais visiblement moins ancien que les ruines, enjambait la vallée d'un pic à l'autre. Aucune route n'y menait, ni d'un côté ni de l'autre, la chaussée butait contre la paroi, tout simplement, et ses fondations étaient enfouies dans les roches entre les ruines. Le Sony décrivit des cercles au-dessus de la scène.
« Un pont suspendu, » murmura Arman. « J'avais entendu parler de ces ouvrages. »
Ada était douée pour estimer la taille des choses, et elle évalua la longueur de la travée principale à 1500 mètres, bien que la chaussée se soit effondrée en une vingtaine de points, révélant une armature rouillée quand ce n'était pas tout simplement le vide. Quant aux deux pylônes, chacun d'eux était recouvert d'une couche de peinture orange qui avait cédé devant les assauts de la rouille. Elle estima leur hauteur à plus de 200 mètres, ce qui plaçait leur sommet au-dessus des montagnes qui les flanquaient. De loin, on aurait dit que les sommets en question disparaissaient sous le lierre, mais lorsque le Sony s'approcha, Ada constata que cette verdure était artificielle. Des bulles, des galeries et des globes, de matériaux flexibles aux allures de verre, enveloppés autour des pylônes, accrochés aux lourds câbles porteurs et pendant parfois aux suspentes au-dessus de la chaussée en ruine. Les nuages descendant des hauteurs se mêlaient à la brume montant des canyons au-dessous des ruines, projetant des vrilles sinueuses autour du pylône sud et occultant câbles et chaussées à cette extrémité.
« Est-ce que cet endroit a un nom ?»
demanda Ada.
« Le Golden Gate à Machu Picchu. »
répondit Savi tout en manipulant les commandes pour entamer son approche. « Qu'est-ce que ça signifie ?» voulut savoir Daeman.
« Je n'en ai aucune idée. »
Le Sony fit le tour du pylône nord, d'un orange terne et d'un rouille rugueux à la vive lumière du soleil, et s'approcha lentement, prudemment, de son sommet, où il se posa sans le moindre bruit. Le champ de force se désactiva. Savi fit un signe de la tête et tous descendirent, s'étirèrent, et examinèrent les lieux. L'air était froid et raréfié. Daeman se dirigea vers le rebord rouillé et se pencha pour regarder en bas. Élevé à Paris-Cratère, il ignorait le vertige.
« À ta place, je ne tomberai pas, »
lui dit Savi.
« L'infirmerie ne pourrait pas te ressusciter. Quand on meurt loin des neuf axes, on reste mort. »
Daeman recula en hâte, manquant de tomber dans son empressement.
« Que veux-tu dire ?»«
Ce que j'ai dit, » répliqua Savi en calant son sac sur son épaule droite. « Il n'y a pas de liaison avec l'infirmerie par ici.
Efforce-toi de rester en vie jusqu'à ton retour. »
Ada leva les yeux vers le ciel, vers les deux anneaux visibles dans l'atmosphère ténue.
« Je croyais que les postes humains pouvaient nous faxer de n'importe où si nous avions des ennuis ?»«
Destination les anneaux, » compléta Savi d'une voix neutre.
où vous êtes soigné par l'infirmerie et où vous montrez rejoindre les postes humains après avoir fêté vos 5 vins.
Oui,
fit Ada d'une petite voix. Savi secoua la tête.
Ce ne sont pas les postes qui vous faxent quand il faut vous reconstruire à l'issue d'un problème. Ce n'est qu'un mythe, un tissu de conneries, pour être moins poli.
Arman voulut répondre, mais Daem...
Viens d'y aller, s'emporta-t-il, à l'infirmerie, dans les anneaux.
À l'infirmerie, oui, dit Savi. Mais ce ne sont pas les postes humains qui t'ont soigné. S'ils sont encore là, ton sort leur indiffère totalement.
Et je pense qu'ils ne sont plus là.
Les 4 voyageurs restèrent immobiles au sommet du pylône rouillé, plus de 150 mètres au-dessus de la chaussée rouillée, près de 250 mètres au-dessus des ruines de pierre poussant parmi les herbes. Le vent venu des montagnes les faisait vaciller et leur ébouriffait les cheveux.
Après avoir fêté nos 5 vins, nous allons rejoindre les postes,
commença Anna d'une petite voix.
Savi éclata de rire et ouvrit la marche, se dirigeant vers un globe de verre aux formes irrégulières accolé à la façade ouest de l'antique pylône.
Il y avait des chambres et des antichambres, des escaliers et des escalators paralysés, et des chambrettes donnant sur les chambres. Ada trouva étrange que le ciel, les pylônes oranges, les câbles porteurs, la jungle et la chaussée en dessous d'eux ne soient pas colorés de vert par le matériau du globe, pas plus que les rayons du soleil d'ailleurs. Cette étrange matière restituait les couleurs sans les altérer. Guidés par Savi, ils passèrent d'un module à l'autre, d'une façade du pylône à l'autre, empruntant des 3 tubes qui auraient dû être secoués par la forte brise, mais ne l'étaient point. Certaines chambres s'étendaient sur une longueur de 10 ou 12 mètres, et Ada ignorait comment le globe vert était fixé au béton et à l'acier. Certaines chambres étaient vides. D'autres contenaient des artefacts. Dans l'une, ils découvrirent une série de squelettes d'animaux, découpés en ombres chinoises sur fond de paysages montagnards. Dans une autre, les répliques de machines rangées dans des vitrines ou suspendues à des fils. Dans une troisième, des cubes en plexiglas contenant des fœtus de diverses créatures, 100 en tout, dont aucune n'était humaine, mais dont certaines étaient si humanoïdes que c'en était troublant. Dans une autre chambre, des hologrammes presque effacés d'étoiles et d'anneaux qu'ils traversaient sans altérer leur course.
« Quel est cet endroit ?» demanda Arman.
« Une sorte de musée, » répondit Savi. « Mais je pense que les expositions les plus importantes ont disparu. »«
Un musée créé par qui ?» s'enquit Anna.
Savi haussa les épaules.
« Pas par les postes, je crois. Je n'en sais rien. Mais je suis presque sûr que ce pont, ou celui qui lui a servi de modèle, car ce n'est peut-être qu'une réplique, s'est jadis dressé au-dessus d'une baie, près d'une ville de l'air perdu, sur ce qui était la côte ouest du continent situé au nord de celui-ci.
En as-tu jamais entendu parler, Arman ?»
« Non.
Peut-être que j'ai rêvé, » dit Savi avec un rire penaud. « Ma mémoire me joue des tours à force de subir des siècles de sommeil. »«
Tu nous as déjà dit que tu dormais pendant des siècles, »
intervint Daeman sur un ton qu'Ada jugea des plus brusques.
« Qu'est-ce que tu nous racontes là ?»
Savi les avait conduits dans un escalier en colimaçon situé dans un tube reliant les câbles porteurs, et elle leur désigna une rangée de cercueils en cristal.
« Une forme de cryosommeil, » expliqua-t-elle, « sauf que cette technique ne repose pas sur le froid, ce qui est stupide, vu le sens originel de cryo. Certains de ces cocons sont encore en état de marche. Ils figent le mouvement moléculaire, pas par le froid, mais grâce à une microtechnologie qui tire son énergie du pont. »«
Du pont ?» répéta Ada.
« Tout cet édifice n'est qu'un gigantesque capteur solaire, » dit Savi. « Du moins, toutes ses parties vertes. »
Ada contempla les cercueils poussiéreux et tenta de s'imaginer s'endormant dans l'un d'eux et se réveillant au bout de combien de temps? Des années? Des décennies?
Des siècles? Elle frissonna.
Savi la fixait avec attention et Ada rougit.
Mais Savi sourit. Un sourire sincèrement amusé, estima Ada.
Ils débouchèrent dans un long cylindre de verre suspendu à un câble porteur tout rouillé dont la largeur dépassait la taille d'Arman.
Ada se surprit à marcher sur la pointe des pieds, s'efforçant de se faire la plus légère possible, redoutant que leur poids ne fasse choir le cylindre, le câble, le pont tout entier. Elle surprit à nouveau Savy en train de l'observer. Cette fois-ci, Ada ne rougit pas, mais fronça les sourcils, lasse de subir cet examen. Les quatre voyageurs se figèrent, alarmés. Apparemment, ils venaient d'arriver dans un grand hall empli de gens. Certains étaient debout le long des murs, les hommes comme les femmes vêtus des tenues les plus étranges, d'autres assis à des bureaux ou devant des consoles, et aucun d'eux ne daigna bouger ni même se tourner vers les nouveaux venus.
Ils ne sont pas réels, dit Daeman.
Il se dirigea vers l'homme le plus proche, vêtu d'une tenue bleu poussiéreuse. Il avait une lanière de tissu placée autour du cou et lui toucha le visage.
« J'ai lu que les serviteurs avaient jadis forme humaine, »
commença Arman.
« Non, » fit Savy, « ce ne sont pas des robots. Ce ne sont que des mannequins. »«
Hein ?»
fit Daeman. Savy lui expliqua ce que signifiait ce mot.
« Sais-tu ce qu'ils sont censés être ?»
demanda Anna.
« Et pourquoi ils sont ici ?»«
Non. »
Savy les laissa explorer les lieux à leur guise. À l'extrémité de la salle, installé dans une alcôve comme s'il était digne de la place d'honneur, un homme se tenait assis dans un fauteuil de bois et de cuir ouvragé. Même dans cette position, il était évident qu'il était plus petit que la majorité des mannequins. Il portait une tunique courte, ressemblant un peu à une jupe taillée dans du coton ou de la laine. Ses pieds étaient chaussés de sandales. On aurait pu le trouver comique, ce petit homme, mais il émanait de ses traits, cheveux gris bouclés coupés courts, nez aquilin, yeux d'un gris perçant sous de lourdes arcades sourcilières, une telle impression de puissance qu'Ada se surprit à l'approcher avec prudence. Ses bras étaient tellement musclés, tellement couturés de cicatrices, ses doigts empoignaient les accoudoirs avec une telle force, tout dans ce mannequin exprimait une force et une tension extrême, physique et mentale, qu'Ada fit halte à 2 mètres de lui. Cet homme était visiblement plus âgé qu'on ne choisissait de le paraître autour d'Ada. Il se situait entre les 2 vingt apparents d'Arman et le grand âge de Savy. Sa tunique était suffisamment échancrée pour qu'Ada aperçoive les poils grisonnants sur son torse massif et bronzé. Daeman la rejoignit d'un pas précipité.
« Je connais cet homme !» dit-il en le pointant du doigt. « Je l'ai déjà vu !»«
Dans l'épopée du Turin !» ajouta Anna.
« Oui, oui !»
fit Daeman claquant des doigts pour mieux se souvenir.
« Il s'appelle... »«
Odysseus !» dit l'homme assis.
Il se leva et fit un pas vers un Daeman stupéfait.
« Odysseus, fils de Laërte.